sa cousine qui est décédée. Donc voilà, je vais prendre le service d'aujourd'hui. On va prier. Père très saint, c'est vers toi. Ton nom, mon regard, bénir ton nom. Pour ton amour et ta grâce manifestée envers chacun de nous, Père. Tu as permis, Père, oh Dieu, que nous puissions nous rassembler ce soir. Merci pour la protection accordée à chacun. Merci, Père éternel, oh Dieu, de rendre chacun éveillé, Père éternel, oh Dieu, ta parole et marcher dans tes voies. Purifie nos cœurs, Père éternel, oh Dieu, et instruis-nous, Père, car nous avons besoin de toi. Souviens-toi de ton serviteur, Père, pour l'assister, Père. Assister toute la famille, Père éternel, que ta consolation s'étende à elle, Père éternel, et la fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, aujourd'hui, nous allons voir un court message, ça ne sera pas très long. J'essaye de ne plus être long, parce que parfois, quand on reste long, ça passe par-dessus la tête. Donc aujourd'hui, on va parler de Gilgal, lieu de la circoncision. Et donc c'est Élie et Élisée qui vont aller au-delà du Jordan. Frère François a abondamment parlé d'Élie le dimanche passé. Et nous savons que Élie est un prophète assez particulier. Il n'a pas connu la mort, il a été enlevé au ciel. La Bible parle de lui chaque fois à des moments clés dans la marche passée ou future d'Israël. En fait, Élie traverse quasiment toute la Bible. C'est souvent par rapport avec la fin d'une époque donnée et l'avènement d'une autre. Il apparaît pour la première fois au temps d'Akab et de sa femme Jézabel qui a introduit le paganisme et l'idolâtrie en Israël. Nous en avons déjà parlé assez longuement. Et Élie va prononcer un jugement contre Israël pour leur adoration des dieux étrangers. Et il avait dit, pas de pluie, sinon à ma parole. Vous vous rendez compte, il n'a pas dit, pas de pluie, sinon à la parole de Dieu. Il a dit, à ma parole. C'était un grand prophète qui a fait pas mal de miracles. Et il a eu comme serviteur Élisée, qu'il a préparé à sa succession. Élisée a dû abandonner ses travaux de champ à son appel pour les suivre et les suivre jusqu'au bout. Et ici, lorsqu'on lit dans la Bible, on voit la détermination que Élisée avait de suivre Élie. Et Élie l'a pris sous ses ailes. Il l'a pris sous ses ailes au point où Élisée l'appelait père. Je crois que la fois passée, nous avons parlé des pères. Nous y reviendrons car il y a beaucoup de choses à dire sur les pères et de l'influence qu'ils ont sur le devenir de leurs enfants. Son ministère est un ministère de restauration, c'est-à-dire de ramener les gens aux fondamentaux et à la vie de Dieu. Dans la Bible, Élie apparaît à nouveau dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre la fin de l'Ancien Testament et l'entrée dans le Nouveau. C'est là que on va basculer, donc je disais, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va le dire explicitement que l'Élie qui devait venir, c'était Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir pour ramener le cœur des enfants vers les pères. Frère François en a parlé le dimanche. Lorsque nous allons dans Apocalypse, il est parlé aussi de deux témoins. De deux témoins d'Israël, dont leur ministère nous rappelle ceux de Moïse et d'Élie. Ceci se passe après l'enlèvement et à la veille de la grande tribulation. Cela est abordé dans les 70 semaines de Daniel. On reviendra sur les 70 semaines de Daniel peut-être plus tard. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ, nous avons reçu un message prophétique qui prépare à la deuxième venue de Christ. Le frère François en a parlé dernièrement. Et je crois qu'il va beaucoup plus insister là-dedans parce qu'il y a peut-être beaucoup qui ne comprennent pas c'est quoi exactement le message. Pour aujourd'hui, on va lire dans 2 Rois 2, à partir du verset 8. On a déjà abordé le cas d'Élie, je crois, il y a presque 3 semaines ou 1 mois, et lors de la réunion de prière. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. » Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Ici, nous voyons Élie et Élisée allait au-delà du Jourdain pour, évidemment, l'enlèvement d'Élie, mais surtout la double portion d'Élisée. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours que vont suivre Élie et Élisée jusqu'à l'enlèvement d'Élie et au retour d'Élisée du Jourdain. Ici, on va aborder une seule partie, on reviendra sur les autres plus tard. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire tous les chapitres. Donc, on va parler du chemin que les deux vont suivre, les villes qu'ils vont traverser et les personnes qu'ils vont rencontrer en chemin. Je n'ai pas lu tous les chapitres, j'ai pris juste une portion de cela. En fait, si on regarde bien, si vous lisez tous les chapitres, vous verrez que Élisée et Élie partaient de Gilgal. Ensuite, ils sont passés à Bethel. Et puis Jéricho. Et alors, on a le Jourdain. Et c'est de l'autre côté que Élie va être enlevé. Et Élisée va retraverser le Jourdain. On verra ça en type. Il y a deux types là-dessus. Donc, on voit Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain, et puis l'enlèvement d'Élie et le retour d'Élisée. Et aujourd'hui, on va plus parler de Gilgal. Et Gilgal est un lieu de souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Gilgal. Et c'est ce qu'on va voir et on verra un peu à quoi cela correspond. Donc Gilgal est un lieu assez symbolique, en ce sens qu'après 40 ans dans le désert, c'est le premier campement dans la terre promise qu'après la traversée du Jourdain. Donc, une chose que je dois pouvoir signaler, c'est que Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, tout ceci se trouve dans la terre promise, donc à Canaan. Ce n'est pas dans les déserts ni en Égypte, dans la terre promise. Et le premier point après la traversée du Jourdain, c'est le premier campement, c'est Gilgal. On va lire dans Josué 4, à partir du verset 19 jusqu'à 24. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ses Jourdains à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge. Il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Gilgal, donc c'était jusqu'à 24, Gilgal, c'est là que tous ceux qui sont nés dans les déserts ont été circoncis. Donc, Gilgal, c'est le premier campement. Il y a un événement important qui va se passer, c'est la circoncision. Et la circoncision est un signe de l'alliance. C'est très important parce que Dieu avait dit que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, à cause de leur désobéissance, personne ne rentrerait. Il y a juste Josué et Caleb qui sont rentrés. Donc, si on lit Josué 5 à partir du verset 2, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis des enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans les déserts pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Remarquez, c'était des gens qui étaient dans l'Alliance. Ils étaient circoncis. Mais tous les peuples nés dans les déserts pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. Puisqu'ils n'étaient pas circoncis, ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore dans l'Alliance. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans les déserts jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Bien. Donc, il y a Dieu va traiter alliance avec les enfants de ceux qui sont sortis en Égypte. Et il faut remarquer, ceux qui sont morts dans le désert étaient des gens qui étaient dans l'alliance. Nous verrons pourquoi c'est si important et pourquoi il faut traverser le Jourdain. Parce que être dans l'alliance ne suffit pas. Il y a plus. Nous avons dit ici que Gilgal signifie aussi rouler par-dessus le pauvre de l'Égypte. Ceci est très important parce que lorsque ils sont sortis dans le désert, physiquement, ils n'étaient plus en Égypte. Mais dans leur cœur, ils avaient encore l'Égypte. Et c'était un problème. Parce que si l'Égypte n'est pas sortie de ton cœur, tu vas continuer à vivre comme l'Égypte. Et si tu continues à vivre comme l'Égypte, Dieu va frapper. C'est la mort qui va s'en suivre. Rouler de dessus vous l'opprobre de l'Égypte signifie l'Égypte n'a plus rien à voir avec vous. Vous n'avez plus le droit de vivre comme les Égyptiens. En Égypte, ils étaient dans la servitude et là, Dieu leur accorde la liberté. Et en ce lieu, Gilgal, c'est comme une naissance. Ça veut dire, c'est comme si le compteur était remis à zéro. Parce qu'ils doivent se débarrasser de tout ce qui est Égypte pour aller vers une nouvelle vie. Et ceci est très, très important d'aller vers une nouvelle vie. Et donc, Gilgal, c'est le lieu aussi, on peut dire, de naissance. On verra ça prochainement. Pourquoi c'est un lieu de naissance. Donc, je disais, ils n'étaient plus physiquement en Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. C'est la sanctification qui fait que l'Égypte qui est en toi puisse sortir de ton cœur. Et c'est la marche du désert. Le désert est un lieu de sanctification. C'est un lieu où les peuples ont manifesté ce qui était en eux. Donc, si on prend Deutéronome 8 au verset 2, la Bible dit « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Nous avons vu que ceux qui sont sortis de l'Égypte n'ont pas gardé les commandements. Et aucun de ceux-là n'est rentré dans la terre promise, sauf Josué et Caleb. Je disais, Gilgal, c'est le lieu de l'alliance. C'est là que Dieu va conclure une nouvelle alliance, ou en tout cas, il va conclure l'alliance avec les descendants de ceux qui sont sortis en Égypte et qui sont morts dans les déserts. Et c'est la circoncision de la chair. Ça veut dire enlever le surplus de la chair qui empêche la vie de s'écouler librement. Car c'est par là que la vie se transmet. Si vous comprenez où Dieu va demander de mettre les sceaux de l'Alliance, le sceau de la vie, car la vie est sacrée, vous comprendrez pourquoi Dieu interdit la débauche, la dissolution. Ce sceau marque le début d'une marche avec Dieu. C'est le début d'une marche avec Dieu, parce que c'est une naissance, il te faut, quelqu'un qui naît doit croître pour atteindre la stature de l'homme parfait. C'est vers cela qu'on va. Aucun homme ne peut atteindre la stature de l'homme parfait à moins qu'il ne croisse. Et aucun homme ne peut croître à moins qu'il n'ait la vie. Et la vie commence par la naissance. Donc, Gilgal est un lieu de naissance. Donc, le sceau de la circoncision marque le début d'une marche avec Dieu. C'est le début de la vie, mais il faut croître jusqu'à atteindre la stature d'un homme parfait. J'insiste là-dedans parce que c'est très, très important de croître. Et on verra comment il faut croître. Commencer la marche est une bonne chose. Mais aller jusqu'au bout et la terminer est le but de la sortie. Et pas que vous mouriez en chemin. Non, ce n'est pas ça le but. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut se réjouir au début, mais c'est la fin qui va vous prouver si vous avez été dedans ou pas. Personne n'a dit que le chemin est facile. Il y aura des moments où ça va chauffer. Et si ton cœur n'est pas dans la chose, tu vas abandonner. C'est pourquoi il ne faut jamais, alors jamais prendre un engagement sacré à la légère. Gilgal, c'est le lieu de l'alliance avec Dieu par la circoncision de la chair. C'est un signe visible. Comme je disais, c'est enlever les surplus de la chair. Gilgal est le début, mais il faut croître. Nous verrons prochainement Bethel. Il faut croître. Donc, naissance et puis croître. Et de toute façon, à part Abraham, en Israël, les enfants étaient circoncis le 8e jour. Lorsqu'ils étaient encore enfants, ils connaissent encore rien de la vie. On doit les nourrir, on doit faire tout pour eux. Et on verra peut-être un type qui ressemble à ce que Dieu fait avec ses enfants. Bien. Donc je disais, c'est le début, Gilgal est le début de la marche avec Dieu. C'est là où Dieu te donne la vie. Mais cette vie doit croître, cette vie doit grandir. Ceci est très important. Gilgal, le lieu de l'alliance. Et lorsqu'on parle de l'alliance, on peut voir l'alliance, en tout cas ici sur la terre, qui est le plus connu, c'est le mariage. Et c'est comme dans les mariages. Il y a le sceau de l'alliance. C'est comme la nuit des noces pour sceller l'alliance de l'homme et de sa femme par le sang. Remarquez, la circoncision, c'est toujours le sang qui est au cœur. Toujours le sang. Y entrer sans conviction, sans réflexion, t'expose à des années de frustration, de misère, de larmes. Parfois même jusqu'au divorce. Tu verras que l'amour tel que nous les hommes le définissons ne suffit pas. Le mariage demande une crucifixion, la mort à soi. Et si tu n'es pas prêt à mourir, n'y entre pas. Si vous y entrez en continuant à vivre comme un célibataire, vous allez cracher comme un avion qui a perdu sa portance. Et cela demande de la sagesse, la capacité à résoudre les conflits, car ils apparaîtront. Et j'espère tout simplement que Dieu est associé dans votre mariage. C'est pourquoi vous avez le droit de réfléchir et peser chaque chose avant de vous engager. Je vais peut-être vous choquer. Ne vous mariez pas parce que vous êtes amoureux. Mariez-vous parce que vous avez compris le sens profond du mariage et c'est à quoi Dieu vous a destiné, votre mission. Le mariage est une très bonne chose quand vous en avez la révélation. Je répète, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Nous parlons de Gilgal, l'alliance. Et le mariage est une alliance. Que des couples vivent une vie misérable et triste parce qu'ils se rendent compte que ce n'est peut-être pas la personne qu'il fallait épouser. Et c'est là que toutes les raisons, je dirais, des excuses sortiront. Non, il ou elle ne fait pas ci, ou elle ne fait pas ça. Alors je n'en peux plus. Et vous verrez un frère qui a perdu toute sa joie de vivre, car ça chauffe à la maison. Une sœur qui a perdu tout son éclat, parce que ça chauffe à la maison. Pourquoi je parle de ça? Parce que une église forte est une église où les couples sont forts en Christ. Si ce n'est pas le cas, l'édifice va tomber. Ça va tomber. Bien. Remarquez qu'après le Jourdain, après la traversée du Jourdain, c'est les campements, le temps de la circoncision et du repos, mais aussi le temps pour vous préparer à la conquête de la terre promise. C'est le premier endroit où ils ont campé avant de commencer à conquérir le pays. Et ne t'engage pas à aller à la guerre si tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu, et si tu n'es pas préparé à affronter les combats de la vie. La joie qu'ils avaient de traverser les Jourdains à sec va être éprouvée. Et la première épreuve, c'est la circoncision de la chair. Ça fait mal. Ils sont restés là pour le temps de la guérison. Ensuite, viendra la guerre, comme je le disais, pour la conquête de Canaan. Il faut te poser la question, qui combattra pour toi ou qui combattra avec toi déterminera l'issue de la guerre. Avec quelles armes tu combats déterminera aussi l'issue de la guerre. Si vous lisez dans Josué, vous voyez que lors de la traversée du Jourdain, il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui s'est présenté devant Josué. Très, très important. Savoir qui est de ton côté pour aller combattre. Autre chose, Gilgal, c'est le lieu où Dieu va leur donner un nouveau régime alimentaire. Et Gilgal, c'est le lieu où ils mangèrent pour la première fois les blés du pays après la Pâque. Remarquez, lorsque ils sont arrivés à Gilgal, c'est là que la manne a cessé de tomber. Dieu le ramène dans un autre régime alimentaire. On va lire, je crois que c'est Josué, toujours 5, 10, si mes souvenirs, je n'ai pas noté ça. Mais je vais lire. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur les soirs, dans les plaines de Jéricho. Donc ils étaient à l'est de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Remarquez, lorsqu'ils arrivent à Gilgal, la manne cesse de tomber et ils doivent commencer à travailler. On verra, peut-être si Dieu nous le permet, la nécessité du travail. Remarquez, ils sont maintenant dans la terre promise. Leur régime alimentaire va complètement changer. La manne va cesser de tomber, car la manne était la nourriture du désert. La manne était bonne pour le désert, mais dans la terre promise, si tu manges la manne, tu as des problèmes. Tu n'auras pas assez de force pour aller combattre. Donc, le régime alimentaire est important pour avoir une bonne santé. Après que tu sois rentré en alliance, que manges-tu? Si hier tu mangeais les magazines People ou les magazines pornographiques, que manges-tu aujourd'hui que tu es rentré en alliance avec Dieu? Votre croissance dépendra de la nourriture que vous mangez et votre force aussi en dépendra. Les militaires le savent, lorsqu'ils vont à la guerre, on leur donne une nourriture spéciale. Ils ne mangent plus comme ils mangent à la maison. C'est la guerre. Ce n'est pas le temps de manger des menus gastronomiques. À ce moment-là, toute la pensée du soldat est de conquérir les territoires. Alors, prends conscience que le fait d'entrer en alliance avec Dieu et les possessions que Dieu te donne ne sont pas gratuites. Tu dois te battre pour chaque centimètre de terrain. Dieu n'aime pas l'oisiveté, car les hommes oisifs ont le temps de penser au mal et de s'y livrer. Dieu te donne une nourriture adéquate, le pain de vie. On verra ça lorsqu'on arrivera à Bethel. Et on verra que c'est important, quand on est dans l'alliance, de manger la nourriture qui correspond, je dirais, au niveau qui correspond à l'alliance dans laquelle tu entres. Tu ne vas pas continuer à manger les anciennes choses. C'est comme quand l'enfant est dans le sein maternel, il est nourri via le cordon ombilical. Mais dès qu'il naît, on coupe le cordon ombilical. Il est nourri au sein maternel, car le monde dans lequel il va naître lui demande d'autres énergies pour combattre contre les agressions auxquelles il doit faire face et pour sa propre croissance. C'est exactement la même chose. Si tu nais de Dieu, tu dois aller manger. C'est l'apôtre qui dit que vous qui devez être des hommes faits mangeant la nourriture solide, vous en êtes encore au lait. Ça veut dire qu'ils avaient un retard de croissance. Et quand on a un retard de croissance, c'est problématique. Donc, Dieu a aussi du lait. C'est ce qu'il te donne justement à Gilgal quand tu nais. Gilgal est donc, je le répète, le lieu de l'engagement, le lieu de l'alliance avec Dieu. C'est l'endroit où l'engagement est scellé.
Je le répète, mais ça, ce n'est que le début. Le but n'est pas de rester à Gilgal. Il faut aller plus loin.
Bien. On va bientôt terminer. Pour conclure, en fait, sonde ton cœur et vois si ton engagement est vrai et véritable. Ou si tu fais partie des ramassis qui ont suivi les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Si ton départ est faux, tu seras disqualifié. C'est du sérieux, ce n'est pas de la blague. Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est vrai. Il accorde encore la grâce pour que tu reviennes à lui. Ton régime alimentaire est un indice que tu prends soin de toi-même et que tu honores celui qui t'a formé. Celui qui ne prend pas soin de son régime alimentaire n'a pas encore compris que sa santé en dépend. Pour ceux qui sont de Dieu, la nourriture que Dieu leur donne est la seule garantie d'une vie épanouie en Christ. Choisissez ce que vous mangez, vous éviterez beaucoup de maladies. On va prier. Merci Père, ô Dieu, pour l'occasion qui nous est accordée de plonger nos regards dans ta parole et de voir, Père éternel, que tu as pour nous des choses extraordinaires, Père éternel. On ne s'en rend pas toujours compte, Père éternel, mais donne-nous ta révélation, Père, car sans révélation, Père éternel, l'homme fait n'importe quoi, Père éternel, ô Dieu. Bien-aimé, toi qui as roulé de dessus les enfants d'Israël l'opprobre de l'Égypte, puisses-tu aussi rouler l'opprobre de l'Égypte, Père éternel, sur tout ton peuple, Père éternel, ô Dieu, et qu'il commence une marche sérieuse et plus engagée avec toi. Nous savons de quoi demain sera fait, mais nous comptons sur toi, Père éternel, pour nous aider à grandir dans la foi et dans la connaissance de Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre secours. C'est lui qui est notre force. Merci pour l'occasion qui nous a été donnée. Plante ces choses en nous, Père éternel, ô Dieu. Aide-nous à ruminer ces choses, Père éternel, pour comprendre l'importance, Père éternel, d'une marche avec toi, Père éternel, ô Dieu. Et cela nous évitera beaucoup de déboires dans cette marche, Père éternel, ô Dieu. Nous nous attendons à toi, Père éternel. Bénis chacun de nous, Père éternel. Fortifie nos cœurs, Père éternel, ô Dieu, et garde-nous de tout mal, Père éternel, alors que nous voyons, Père éternel, des ténèbres épaisses couvrir la face de la terre, Père éternel, ô Dieu. Merci pour tous tes bienfaits envers nous, Père éternel, ô Dieu. Apprends-nous à compter sur toi, Père éternel. Illumine les yeux de nos cœurs, Père éternel, et fais-nous marcher, Père éternel, dans les sentiers de la justice. Maintenant, Père, que nous allons nous séparer, puisses-tu, ô Dieu de paix, nous accompagner, Père éternel, garder de tout mal, Père éternel, ô Dieu. Et s'il y a encore un lendemain pour nous, Père, permets-nous, Père éternel, de partager ta parole, Père éternel, ô Dieu, et surtout de réveiller, Père éternel, nos vies, Père éternel, de réveiller notre esprit, Père éternel, ô Dieu, car le temps est fort avancé, Père éternel, ô Dieu. Fais que chacun puisse réaliser que le temps est fort avancé, Père éternel. On court derrière beaucoup de choses, Père éternel, ô Dieu, mais le sage a dit que tout n'est que vanité, Père éternel, ô Dieu. Nous réalisons, Père éternel, ô Dieu, que nous courons derrière ces choses et lorsqu'on les a, Père éternel, cela nous amène beaucoup plus de misère parfois que de joie. Accorde-nous, Père éternel, ta paix et instruis-nous, Père éternel, dans la suite. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.